Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Tentative de coup d'état contre le capitaine Ibrahim Traoré. Ce matin, des manifestants se sont réunis à la place de la Nation pour, disent-ils, contrer une tentative de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Ils expliquent qu'ils ont eu des informations d'une tentative de déstabilisation du régime en place.
C'est ainsi que nous on a organisé. Si c'est la réalité, que ces gens la fassent très très attention, que l'heure n'est plus ça encore.
Effectivement, nous avons appris qu'il y a tentative de coup d'état.
Au Mali, le gouvernement annonce dans un communiqué avoir appréhendé un groupe de criminels de narcotrafiquants. 4 au total et tous des Français. Ils avaient pris en otage une dizaine de personnes. Et puis Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun tient tête face à la Serbie. Un match avec plusieurs rebondissements soldé par un score de 3 buts partout. Le journal sur Radio Méga, c'est tout de suite et maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal sur Radio Oméga. Attention aux rumeurs, ce matin, des manifestants se sont réunis à la place de la Nation pour, disent-ils, contrer une tentative de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Ils expliquent qu'ils ont eu des informations d'une tentative de déstabilisation du régime en place. Ils ont donc décidé de ne pas bouger des lieux sans avoir eu confirmation que le capitaine Traoré va bien. On écoute quelques manifestants au micro de Ibrahim Niaoné et de Chalda.
Matin, là, on est là parce qu'on a appris qu'il y a des gens, des groupes qui sont organisés pour assassiner le président Ibrahim. Pourquoi on a pris ces nouvelles dans la soirée. Voilà pourquoi on s'est organisé ici, pour voir ce que nous, on va faire. Parce que nous ne sommes pas contents si cela est vrai. Parce que coup d'état, dans coup d'état, ça ne nous amène pas nulle part. Ce n'est que remettre à nous mettre notre pays en arrière. Donc c'est ainsi que nous, on a organisé pour mettre face, si c'est la réalité, que ces gens-là fassent très très attention, que l'heure n'est plus ça encore. Parce que nous voulons que notre pays trouve la paix. Parce qu'on est trop duré avec ce qu'on est. Donc avec ce président, nous, on pense qu'on veut trouver porte de sortie. Mais s'il y a des gens qui veulent rester pour menacer encore, pour que nous, on ne puisse pas sortir dans la situation que nous, on est, on ne sommes pas d'accord dans ça. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin-là, pour dire attention à ceux qui veulent faire ça, que vraiment, ils sont mal barrés.
Effectivement, nous avons appris qu'il y a tentative de coup d'État. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes sortis ce matin. Voilà, et c'est vrai, on n'a pas reçu l'information officielle de la part des autorités. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on a un autre problème. Voilà, ceux qui sont assoiffés du pouvoir, là, ils n'ont qu'à attendre. Quand il y aura la tranquillité, ils pourront faire leurs élections. Et derrière ce président-là. Donc, ce n'est pas la peine que quelqu'un tente encore de troubler encore la quiétude des Burkinabés. Notre combat aujourd'hui, c'est de libérer notre pays. C'est de libérer notre pays.
Voilà, à l'instant, la réaction de quelques manifestants qui se sont réunis donc ce matin à la place de la Nation pour, disent-ils, contrer une tentative de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Une actualité sur laquelle nous y reviendrons amplement au cours de nos prochaines sessions d'information. L'associé principal pour l'Afrique, Christopher Fomenyo, a eu un entretien avec le Premier ministre burkinabé tout à l'heure. Une visite qui s'inscrit dans un cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Cette initiative de l'Institut national démocratique est une organisation non partisane et non gouvernementale. Elle répond aux aspirations des personnes du monde entier désireuses de vivre dans une société démocratique dotée d'un système politique ouvert et pluraliste, reconnaissant et promouvant les droits de l'homme fondamentaux. En attendant de revenir amplement sur cette actualité, je vous propose d'écouter Christopher Fomenyo au micro de Moumouni Tamboura et de Sonia Nikima.
Effectivement, nous avons tenu à rendre une visite de courtoisie à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le rassurer du soutien du NDI à son gouvernement, aux populations burkinabées, avec lesquelles nous sommes partenaires depuis plus de 17 ans. Comme vous le savez, le NDI est présent ici au Burkina Faso et travaille à côté de la société civile burkinabé, des partis politiques toutes tendances confondues, des élus, pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, pendant cette période où le pays connaît des défis particuliers, il est important que nous manifestons notre partenariat. Par le passé, nous avons mené des activités de renforcement des capacités à l'intention des organisations de la société civile. Nous avons beaucoup travaillé avec les associations féminines sur les questions de la participation active des femmes en politique. Nous comptons maintenir le cap sur ces activités et aussi appuyer la législature de la transition pour que les différentes réformes qui seront prises en considération soient faites avec un éclairage comparatif, profitant des expériences des autres pays aussi qui ont traversé des périodes aussi difficiles mais qui ont réussi leur transition.
À l'instant, l'associé principal pour l'Afrique, Christopher Fomunio, qui vient d'avoir un entretien avec le Premier ministre burkinabé. La mutuelle des travailleurs du fisc Moutraf a organisé la première édition des JMF, journée du mutualiste du fisc. Cette journée vise à faire connaître la mutuelle des travailleurs du fisc et de créer des liens de fraternité entre ses membres, d'où le thème « Mutualité et promotion de la solidarité et du vivre ensemble ». La cérémonie de clôture a eu lieu ce dimanche 27 novembre en présence de Soulomani Kema et de Momoni Tamboura.
Don de vivre. Concours d'art culinaire et crosse populaire sont, entre autres, les différentes activités qui ont meublé ces 72 aires des mutualistes du fisc. L'objectif principal était de renforcer la fraternité et la solidarité entre ses membres. Étienne Soma, président du comité d'organisation.
Au titre des bilans, nous pouvons dire que nous sommes déjà satisfaits pour le chronogramme qui a été déroulé sur l'ensemble des activités qui étaient programmées. Seule une activité n'a pas pu être tenue, à savoir donc collecte de sang. Le président du conseil d'administration, dans son mot, a tenu à rappeler que cette activité sera tenue dans les jours à venir et que le programme sera totalement exécuté.
Les vainqueurs des différents concours ont reçu leur prix au cours de cette cérémonie. Une initiative saluée par Daouda Kirakoya, directeur général des impôts, président d'honneur de cette première édition.
En tant que président d'honneur, ma satisfaction, c'est que la mutuelle puisse continuer dans la lancée. Également, c'est un titre qui nous permet d'être toujours à côté pour les accompagner. Et c'est également une reconnaissance pour l'ensemble des personnes qui se sont investies depuis 2006, bien avant 2006. Voilà, jusqu'à maintenant.
La première édition des journées du mutualiste du fisc s'est tenue du 25 au 27 novembre. La deuxième est prévue novembre prochain.
Merci à vous, Momoni Tamboura. La septième édition de la rencontre internationale de la photographie de Ouagadougou, focale d'Afrique 2022, débutée le 21 novembre, a refermé ses portes ce samedi 26 novembre à Ouagadougou. Une édition qui se veut un cadre d'expression initié par l'association de photographes Pixel 24. À cet effet, Focal Afrique 2022 a réuni les acteurs de la photographie du Burkina Faso et de la sous-région. Une cérémonie de récompense des meilleurs photographes a marqué cette soirée de Focal d'Afrique. On en sait plus avec Irène Ikema et Pierre Badolo.
Malgré la situation sécuritaire du pays qui n'est pas sans conséquence sur les activités de rencontres entre photographes nationaux et internationaux, le bilan de la 7e édition du Focal d'Afrique est satisfaisant, a déclaré son commissaire général lors de la clôture de la 7e édition de la rencontre des photographes. Ibrahim Nikima.
D'abord, effectuer un bilan satisfaisant et sinon très satisfaisant parce que nous avons enregistré une trentaine de stagiaires, une dizaines d'œuvres en compétition, 4 pays participants, à savoir le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Niger et le Bénin. Aussi, en termes d'exposition, nous avons une, disons les dizaines, nous avons primé 5.
La puissance récale plus de puissance, dit-on. Le commissaire saisit l'occasion pour inviter les photographes à développer leurs compétences pour relever les défis liés aux nouvelles technologies numériques, ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème de cette 7e édition. La photographie en Afrique à l'ère du numérique, opportunités et menaces. Ibrahim Nikima.
En termes de participation, en termes d'apprenants, il y a eu l'engouement, certes, mais en termes de qualité d'œuvre artistique, photographique, disons, c'est pas trop ça parce que nous n'avons pas enregistré assez de qualité. Si c'est dans les autres biennales de la photographie ou manifestations organisationnelles de la photographie, c'était pas évident, il n'allait pas y avoir un focal d'or. Et nous profitons de vos micros pour dire non aux photographes locaux de participer et de se faire former. Comme le dit notre slogan à Pixel 24, se former pour mieux servir.
Saturnin Adibo remporte le focal d'or, grand prix de la 7e édition. Irène Corbego, le focal d'argent. La malienne Mariam Niaré repart avec le bronze. Des attestations de participation ont été décernées aux stagiaires qui ont pris part à la formation en photographie. Cette 7e édition a connu la participation des photographes professionnels, des amateurs et des passionnés venus du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Bénin et du Togo.
L'initiative Pananetigri pour le bien-être a procédé vendredi dernier à Ouagadougou au lancement de sa campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne devra à terme permettre de sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre. Le compte-rendu avec Abdoulkader Konaté.
L'initiative Pananetigri pour le bien-être de la femme, IPBF, entend mener une offensive contre les violences basées sur le genre. Pour y arriver, elle a initié une série d'activités intitulée « Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre ». Juliette Nathalie Bakiono, présidente de l'IPBF.
Les 16 jours d'activisme sont une campagne initié par ONU Femmes, qui est maintenant menée à travers tous les pays sur les violences basées sur le genre. Donc, pendant 16 jours, au niveau de IPBF, qui est une organisation féministe, nous allons également mener des activités contre ces violences basées sur le genre, afin de dénoncer certaines situations, afin de sensibiliser également la population sur les violences basées sur le genre.
Pendant ces 16 jours d'activisme, plusieurs activités seront menées.
Nous allons nous retrouver entre militantes, activistes féministes, entre acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous allons nous ressourcer parce que, comme on le dit également, il faut penser au bien-être et ça sera couplé à des activités d'autodéfense. Indépendamment de cela, nous avons une campagne digitale qui est un moment phare de cette campagne qui a été organisée et qui sera assurée par des jeunes filles, des championnes de l'IPBF, avec des messages forts qu'elles ont à passer. La campagne va se terminer avec un talk show féministe qui va regrouper un panel d'experts sur la question des violences basées sur le genre.
Accompagné par plusieurs structures partenaires, les 16 jours d'activisme devront fondamentalement permettre un changement de comportement tout azimut, selon l'ONG féministe.
De la mendicité aux opportunités ou aux enfers, c'est l'intitulé du livre de Paul Sondo, contrôleur de la police. L'auteur s'interroge ici, à travers son œuvre, sur le lien entre le phénomène de la mendicité des déplacés internes et le terrorisme. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce samedi 26 novembre à Ouagadougou. Le compte-rendu de Soulemani Kema et Abdulaziz Zoulabou.
De la mendicité aux opportunités ou aux enfers est composé de 47 pages sur deux parties. L'auteur y évoque toutes les formes de mendicité telles que la mendicité culturelle et la mendicité due à un handicap physique avant de prévenir sur celles liées aux attaques terroristes et aux déplacés internes. Selon Paul Sondo, auteur du livre, ce phénomène doit être analysé avec rigueur.
Enfin, l'objectif fondamental, c'est vraiment une interpellation à toute la société et particulièrement aux acteurs de la gouvernance de la nécessité d'être assez préventif. Parce que il y a des phénomènes qui se développent et qui deviennent des maux. Et ils sont beaucoup plus, ils peuvent être facilement vaincus à leur état primaire. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre semble être anodin, mais peut connaître des proportions qui vont créer des nuisances. Moi, c'est véritablement une interpellation. C'est ça l'objectif.
L'auteur interpelle les autorités, les chercheurs et les étudiants à se pencher sur la question. Il est convaincu que le terrorisme va prendre fin à en croire Parfait Ilboudo, présentateur de l'œuvre.
L'auteur aborde là une question liée au peuplement du Burkina Faso, à savoir que ce terrorisme-là va révolutionner la carte ethnique du Burkina, parce qu'il n'est pas exclu que des gens qui se sont déplacés, même lorsque le phénomène de terrorisme va prendre fin, que ces gens-là décident par exemple de rester où ils sont ou de changer de localité simplement pour des questions et d'habitude. Donc, il y a un optimisme qui est en ligne de fond, à savoir que l'auteur espère que le terrorisme va prendre fin.
Ce roman est la troisième œuvre littéraire de Paul Sondo. Les précédentes sont intitulées « L'aube du sort sacré » et « Crépuscule du sort sacré ». De la mendicité aux opportunités ou aux enfers est disponible dans les librairies Mercury et Jeunesse d'Afrique à la somme de 2000 francs CFA.
L'actualité hors de nos frontières nous conduit ce lundi au Mali, au Togo, mais aussi au Cameroun et en Somalie, où 4 personnes ont été abattues ce lundi dans le siège d'un hôtel attaqué par les Chebab. À l'Iskagoné, on commence ce tour d'horizon de l'actualité internationale au Mali.
On commence ce tour d'horizon de l'actualité internationale par le Mali, où le gouvernement annonce dans un communiqué avoir appréhendé un groupe de criminels et de narcotrafiquants. Les membres du groupe, 4 au total, tous des Français, avaient pris en otage une dizaine de personnes. Le communiqué explique que cette opération menée sur la base de renseignements minutieusement exploités a permis de libérer 10 otages, dont 3 femmes et 6 enfants, et arrêter 4 criminels, dont un franco-sénégalais, 2 français et un franco-malien. Depuis le 18 novembre dernier, des membres d'une famille avaient été enlevés par ces preneurs d'otages, monnayant le paiement d'une rançon de 900 millions de francs CFA. Le gouvernement malien précise que les enquêtes se poursuivent pour démanteler ce réseau criminel ainsi que les complices. Au Togo, des centaines de personnes ont assisté hier dimanche à Lomé au premier rassemblement d'un important mouvement de l'opposition après plus de 2 années d'interdiction. À l'appel de la dynamique Monseigneur Podro, qui regroupe 7 partis politiques de l'opposition et 6 organisations de la société civile, des militants de l'opposition se sont rassemblés sous 3 grandes tentes aménagées sur un petit terrain de la localité. D'autres se sont attroupés sous des arbres au cœur. Un incident n'a été enregistré. Après la découverte du premier cas de coronavirus en mars 2020, toutes les manifestations de l'opposition avaient été interdites par le gouvernement qui invoquait alors des raisons sanitaires. Les récentes manifestations ont été interdites pour des raisons sécuritaires. Au Cameroun, les nouvelles ne sont pas bonnes. Un éboulement d'un terrain lors d'une cérémonie funéraire a fait 11 morts hier dimanche à Yaoundé. 4 premiers corps recouverts de drap blanc ont été évacués hier soir et les autres corps ont été évacués dans de nombreux véhicules de pompiers et ambulances qui se sont succédés. De nombreuses familles s'étaient installées dans l'après-midi pour une cérémonie de commémoration de 5 membres d'une association décédée durant l'année. Les convives étaient installés sous plusieurs grandes tentes sur un terrain vague au sommet d'une colline quand le sol s'est affaissé en début de soirée sous une partie de l'assistance. En Somalie, pour terminer, 4 personnes ont été abattues ce lundi dans le siège d'un hôtel attaqué par les Chebab. Des coups de feu sporadiques et des explosions continuaient de retentir ce matin aux alentours de l'hôtel Villa Rose. Un hôtel très fréquenté par des hauts fonctionnaires et des parlementaires est situé à quelques encablures des bureaux du président Hassan Cheikh Mohamoud. Des témoins avaient décrit de fortes explosions dimanche soir, marquant les débuts de l'attaque par les Chebab de cet hôtel situé dans le quartier de Bandéré et jouissant en principe de sérieuses mesures de sécurité.
Omega Sport. Omega Sport, et nous parlons de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le rugissement des lions indomptables du Cameroun n'a pas fait reculer la Serbie. Le pays de Paul Biya a tenu tête à la Serbie par un score fleuve de 3 buts partout, avec donc plusieurs rebondissements. Et pendant ce temps, c'est la victoire du Maroc sur la Belgique qui n'est pas sans conséquence. Hier dimanche, des violences ont éclaté à Bruxelles après la victoire du Maroc contre la Belgique. Selon un communiqué de la police, quelques dizaines de personnes s'en sont pris à du mobilier urbain et aux forces de l'ordre en centre-ville. Des dizaines de personnes, dont une partie cagoulée, ont cherché la confrontation avec les forces de l'ordre, ce qui a compromis la sécurité publique, a annoncé la police dans un communiqué. Elle a fait état de l'utilisation de matériel pyrotechnique, de lancer de projectiles, de manifestants armés de bâtons, d'un incendie sur la voie publique et de la destruction d'un feu de signalisation. Le Ghana et la Corée du Sud vont se défier dans quelques instants, précisément à 13h. Plus tard, le Brésil va tenter de confirmer face à la Suisse à 17h avant un choc Portugal-Uruguay en clôture de cette journée à 19h. Place à présent à la revue de presse.
La revue de presse.
Le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, considéré comme un pas de plus vers la réconciliation nationale, est largement commenté par la presse burkinabé ce lundi. Au Mali, la gestion de la transition inquiète l'observateur Palga qui estime qu'avec le retour de Choguel Maïga, la primature se retrouve avec deux premiers ministres. La revue de presse de ce lundi avec Brigitte Yoda.
Les principaux quotidiens du jour saluent le retour de Charles Blé Goudé après celui de son mentor et co-accusé Laurent Gbagbo. Pour le pays, ce retour au bercail constitue un nouveau palier de franchi dans le processus de réconciliation nationale initié par le président Alassane Ouattara qui confirme chaque jour un peu plus son statut d'homme de paix à l'image du père de la nation Félix Houphouët-Boigny. Rappelant que Blé Goudé fut un farouche adversaire de l'actuel président ivoirien, aujourd'hui au Faso, trouve curieux que le même Alassane Ouattara, qu'il vilipendait jadis, qui est devenu son oncle par translation puisque Gbagbo est le père de Ouattara et Gbagbo étant le père de Blé Goudé, qui est fou, ironise le journal Aujourd'hui au Faso qui crie « Ayoka Blé Goudé » qui signifie « Bienvenue en langue bété ». Saluant les efforts de Ado, l'Express du Faso pense cependant que Alassane Ouattara ne peut pas être le seul à rechercher et à travailler pour la réconciliation. Tous les Ivoiriens doivent s'impliquer pour que celle-ci soit une réalité et durable. Pour cela, les principaux acteurs politiques, que sont notamment Henri Conan-Bédier et Laurent Gbagbo, doivent jouer leur partition, exhorte notre confrère qui se surprend à rêver aussi du retour d'exil de l'alter ego de Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, tombé en disgrâce et qui depuis erre dans la nature. Au Mali, le retour officiel à la vie politique après un repos médical de presque 4 mois pour cause d'accident vasculaire cérébral du Premier ministre Choguel Maïga est considéré aussi comme une bonne nouvelle par l'observateur Palga. Mais sa visite au Premier ministère alors que son intérimaire Abdoulaye Maïga est toujours en poste ont pris les allures d'un bicéphalisme à la primature. Le Mali a comme 2 premiers ministres, poursuit l'Obs, qui invite le président Assimi Goïta à vite trancher, car la stabilité et l'efficacité au travail, l'exécutif malien en a grand besoin. À l'évidence, quelle que soit la décision que viendrait à prendre Assimi Goïta pour mettre fin au bicéphalisme rampant à la primature entre un Choguel Maïga apparemment revigoré et un Abdoulaye Maïga qui se sent pousser des ailes, il y aura un frustré, conclut le doyen des quotidiens.
Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Et la retransmission web a été possible grâce à Chalda. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez encore connectés. Le journal revient Mouré dans un instant avec Mokhtar Tapsoba. Bon après-midi à tous et à chacun.
Radio Omega, l'info en direct.
Vous écoutez Radio Omega 103.9 en fréquence.